D'abord, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs façons de définir l'équitable. Il y a ceux qui vous disent, comme Max Havelaar l'a dit au début, quand on parlait encore en franc, interpeller le consommateur en disant « Êtes-vous prêt à payer un franc de plus ?» un paquet de café pour qu'il soit équitable. Donc là, on va culpabiliser le consommateur en disant, voilà, tout ce qui arrive dans les pays du tiers-monde, tout ce qui arrive aux plus déshérités sur la planète, aux plus pauvres, eh bien finalement, c'est à cause de vous, consommateurs. Et si vous acceptez de réparer ces préjudices subis par les plus pauvres, eh bien finalement, nous, on acceptera de donner un petit peu plus. Autrement dit, le consommateur paye un peu plus, et puis on va donner un petit peu plus aux petits producteurs pauvres. Et le tour est joué, et on n'a rien changé. Alors, il faut savoir que le commerce équitable, tel qu'il a été pensé par ses précurseurs, c'était au contraire une remise en cause de ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale, c'est-à-dire une remise en cause de la répartition de la richesse, et l'idée était de dire, mais dans le fond, il faut répartir autrement le prix qu'a payé le consommateur. Il ne faut pas que ce soit les mêmes qui s'accaparent tout, justement, la grande distribution, justement, les grands groupes de l'agroalimentaire, les grands trusts transnationaux, mais au contraire, une juste répartition tout au long de la filière. Et ce que l'on voit, c'est que justement aujourd'hui, il y a un vrai débat entre ceux qui défendent l'idée de ce que j'appelle la petite pièce jaune dans le chapeau du pauvre, c'est-à-dire le petit plus qu'on va demander aux consommateurs sur un produit bien spécifique, le café, le chocolat, etc., pour donner un petit peu plus aux petits producteurs, et on s'arrête là, ou au contraire, cette remise en cause de la répartition de la richesse tout au long de la filière. Tout au long de la filière, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr le producteur, mais aussi les gens qui travaillent pour lui, les salariés, donc les ouvriers agricoles, les journaliers, saisonniers, etc., puis les gens qui transportent les produits là-bas dans les pays du Sud, puis les gens qui transportent les produits entre le Sud et le Nord, et aussi les gens qui transportent ici, en arrivant comme ça jusqu'à la caissière de l'hypermarché. Donc évidemment, il y a un commerce équitable qui remet en cause cette mondialisation, qui critique ces pratiques économiques mondialisées, et puis un autre, je vais dire, qui accompagne finalement et qui se contente de réparer un tout petit peu là où ça fait mal, et pas beaucoup plus. Donc on est vraiment dans ces deux approches, et là il y a un vrai débat aujourd'hui au sein du commerce équitable.
Est-ce que cette démarche n'est pas aussi un petit peu victime d'une image et finalement est récupérée par le marché, par la grande distribution?
Évidemment, parce qu'au départ, on a une idée généreuse, encore une fois, qui était quand Max Havelaar, d'ailleurs, enfin les fondateurs de Max Havelaar, je pense au père Van der Hoff, Frans Van der Hoff, au début avait réfléchi à son commerce équitable à lui, eh bien il y voyait un levier de transformation de la société, un véritable levier par la consommation. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit s'engouffrer dans ce commerce équitable-là des gens qui sont en mal d'image en fait, qui ont eu souvent à subir des campagnes de presse un petit peu difficiles, des campagnes d'opinion en tout cas, et donc qui se rachètent un petit peu une virginité. Alors on voit des gens étonnants, on voit quand même McDo qui apparaît comme partenaire de l'équitable, c'est quand même pas banal, parce que quand on connaît un petit peu les pratiques de McDo, notamment à l'égard de ses salariés, on est un petit peu surpris de le retrouver là. On voit un groupe, je l'ai dit tout à l'heure, comme Dagris qui est un promoteur d'OGM, qui a les pires pratiques à l'égard des producteurs africains en termes de coton. Dagris aujourd'hui qui nous revient par la porte de l'équitable. On voit Starbucks aussi, c'est ce réseau de bars américains dont on connaît les pratiques sociales qui ont été dénoncées par Naomi Klein dans Nos Logos. Eh bien, aujourd'hui, Starbucks qui vient en France avec le logo Max Havelaar, on voit le groupe Nestlé, c'est quand même important Nestlé, les pratiques de Nestlé par rapport aux paysans, par rapport aux nourrissons dans le tiers-monde, Nestlé aujourd'hui communique et vend un produit équitable en Grande-Bretagne. On voit le groupe Accor, on se rappelle tous évidemment des grèves, des femmes de chambre, comment sont traitées ces femmes de chambre, la plupart du temps africaines, qui ont 1,63€ pour faire une chambre, 17 minutes chrono pour faire une chambre, etc., et qui n'ont pas droit aux heures supplémentaires et tout le reste. On se rappelle leur grève assez longue l'année dernière, plus d'un an maintenant. Eh bien, ce groupe Accor nous revient par la porte de l'équitable et communique donc lui aussi sur l'équitable. Donc, je ne parle pas évidemment de la grande distribution qui là aussi communique et vend de l'équitable. Je crois que le premier distributeur de produits équitables aujourd'hui en France, c'est Leclerc. Et ce qu'il faut lire simplement, c'est la définition que donne Leclerc du commerce équitable. Définition qu'il a donnée tout récemment au magazine L'Entreprise. Voilà ce qu'il dit. Il dit actuellement, nous sommes dans une phase de promotion et de soutien du commerce équitable qui ne constitue qu'un marché émergent. Et Leclerc ajoute, avec les volumes, les fournisseurs vont pouvoir écraser leurs coûts de production et nous pourrons ainsi augmenter nos marges. Alors ça veut dire quoi, écraser les coûts de production? C'est pas la matière première, on est déjà au plus bas. Eh bien, c'est simplement mettre une pression encore plus forte sur l'humain, sur le social, sur les sous-traitants, sur les salariés. Et à tel point d'ailleurs qu'on observe une chose dans le système Max Havelaar, par exemple, on observe que les salariés des producteurs sont exclus du système de l'équitable. On dit on va donner un petit peu plus aux petits producteurs, c'est bien, tant mieux, mais les gens qui travaillent, c'est-à-dire les sans-terre en fait, ceux qui n'ont même pas les moyens d'avoir un lopin de terre pour produire, ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour essayer de survivre, eh bien ces gens sont exclus du système de l'équitable. Donc on voit vraiment qu'on est très très loin du compte, on est très très loin de ce levier de transformation.
Alors, peut-être, comment est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur votre enquête? Est-ce que vous êtes allé voir directement sur place?
Alors j'ai rencontré évidemment pas mal d'acteurs du commerce équitable, parce que sinon ce serait évidemment pas très juste et pas exhaustif. Donc on n'est jamais exhaustif, bien entendu, c'est une enquête qui a pris près de 3 ans. Donc c'est vrai que j'ai fouillé pas mal là où il fallait, et notamment chez les acteurs et chez les principaux. Ce qu'on voit aussi, mais ça veut dire aussi qu'il faut mettre un bémol à ce que je dis, c'est-à-dire que l'équitable, globalement, n'est pas à rejeter, bien sûr. On part d'une idée très forte, très intéressante, qui est la question de la répartition de la richesse. Elle est aujourd'hui dévoyée par les grands groupes transnationaux qui essayent de récupérer et de se racheter de l'image, et on voit que les gens du marketing se l'approprient, donc se disent, dans le fond, il y a peut-être une carte à jouer, parce qu'on a là des produits de niche, et puis en même temps, ça valorise l'image. Donc c'est vrai qu'on a toutes ces déviances, on a aussi cette équitable qui a été vidée de son contenu, puisqu'on voit que dans le système Max Savard, par exemple, on a un retour que de 4 euros par mois pour les petits producteurs. Max Savard nous dit, grâce à lui, 50 millions d'euros chaque année distribués aux petits producteurs pauvres. C'est formidable, 50 millions d'euros, il y a beaucoup d'argent. Ça représente beaucoup d'argent, beaucoup de zéros. Mais si on divise par le nombre de bénéficiaires, 1 million revendiqués, 50 millions divisé par 1 million, ça fait 50 euros par an en moyenne par producteur, divisé par 12 pour trouver par mois, ça fait un peu plus de 4 euros par mois. 4 euros sur lesquels il faudra déduire les frais de coopérative, les frais de transport, les frais de douane, etc. Donc on voit qu'il ne reste pas grand-chose. Mais malgré tout, au-delà de tout ça, eh bien, il y a des gens qui sont dans une vraie démarche équitable, qui revendiquent d'ailleurs le commerce équitable aussi dans les rapports Nord-Nord, puisque on parle aujourd'hui aussi de la crise de nos paysans, bien sûr, en local. Hein, eh bien, c'est de dire, dans le fond, l'équitable, c'est pas seulement le petit paquet de café qu'on va glisser sur le sommet d'un caddie bourré de produits inéquitables, parfois fabriqués par les enfants dans les sous-sols du tiers-monde, mais le commerce équitable doit s'appliquer tout au long des filières, c'est-à-dire du producteur au consommateur, bien sûr, jusqu'à leurs salariés, jusqu'aux salariés des hypermarchés, supermarchés, mais aussi dans les rapports nord-nord, c'est-à-dire qu'on doit pratiquer l'équitable aussi par rapport à nos paysans dans la proximité. Et puis cet équitable doit s'appliquer dans les rapports nord-nord, dans les rapports sud-sud, bien sûr, et évidemment, bien évidemment, dans les rapports nord-sud. Donc je veux dire, c'est une notion de généralisation. Il y a aujourd'hui un grand mouvement qui est lancé en disant « changeons la loi », donc qui tente à modifier la loi du 2 août 2005, qui enferme l'équitable dans une approche caritative tiers-mondiste, et au contraire, tendante à demander la généralisation de l'équitable partout, tout au long des filières, c'est-à-dire une véritable réforme, finalement, de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce.
Christian Jacquiot, merci. Je rappelle que vous serez au Salon du Livre, donc ce 1er mai à Arras. Et puis, peut-être un mot aussi sur cette rencontre qui est organisée la veille du Salon, donc à Mailly-Maillet, organisée par plusieurs associations et notamment une coopérative de production de produits de charcuterie.
Bah oui, et vous avez raison de faire le lien, parce qu'effectivement, on a là une véritable démonstration que l'équitable, c'est aussi dans la proximité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, ben voilà, on sait combien les producteurs de porc souffrent aujourd'hui, et pas seulement, combien le monde paysan souffre aujourd'hui de cette pression exercée par la grande distribution, eh bien, il y a des gens qui se sont dit, voilà, il faut passer aux travaux pratiques, certains disent un autre monde est possible, et puis maintenant, des gens disent, oui, mais ok, on fait comment? Et donc, des gens, des consommateurs, des paysans aussi de la Confédération Paysanne, se sont regroupés en disant, voilà, on va organiser notre propre réseau de consommation, donc on va organiser la distribution, et puis faire en sorte que le consommateur ne soit pas grugé, qu'il ne soit pas trompé par ceux qui distribuent, et aussi qu'il y ait un véritable respect par rapport à ceux qui produisent. Et là, on est vraiment dans une application de ce que peut être le commerce équitable. Ce qu'il doit être, non seulement ce qu'il peut être, mais ce qu'il doit être, c'est une généralisation de la réappropriation, de la relocalisation, donc des activités économiques de distribution et de consommation. Je crois que là, c'est vraiment un très bon exemple de ce que peut être le commerce équitable. C'est aussi un très bon exemple des moyens dont on dispose en tant que consommateur pour lutter justement contre les pratiques de la grande distribution.